Vous écoutez l'AE Carnivore. Le 13 mars 2017, Luc et Damien interviewent Nicolas Fong, réalisateur et animateur de dessins animés.
Bonsoir Nicolas Fong, merci d'être venu dans l'œil carnivore ce soir. Alors on enregistre ça un petit peu avant l'émission, hein, parce que tu ne pouvais pas être là, et bah, c'est super, parce que comme ça on a le temps de faire l'interview, et ça c'est sympa.
Bonsoir l'œil carnivore, merci.
Ah bah, avec plaisir, hein. En tout cas merci à toi d'être venu.
Merci à toi, oui.
C'est
oui.
Super. Et bah, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, donner ton parcours? Je sais que tu as fait la Cambre.
Voilà, gros, voilà, mais... j'ai fait la Cambre, je suis sorti en 2008 de la Cambre, et depuis je me suis baladé dans des studios d'animation où j'ai travaillé sur des séries télé et des longs métrages, enfin un long métrage, pardon. J'avais fait ça pendant 5 ans, et ensuite le studio dans lequel je bossais est parti à Montréal, donc du coup je l'ai pas suivi parce que les projets qu'ils me proposaient n'étaient plus assez intéressants, enfin selon moi j'avais pas envie de bouger jusqu'à Montréal pour travailler sur une adaptation en 3D de Zorro ou ce genre de choses.
T'es bruxellois d'origine?
Non, je viens de Paris.
Ah bah voilà, un Parisien qui est venu, ouais. T'es venu planquer tes sous en fait, c'est ça?
Oui, ma grosse fortune d'animateur.
Ça va parler à beaucoup à mon avis.
Non, surtout que je suis parti de Paris pour aller à la Cambre, enfin pour faire mes études, et depuis j'y suis resté, fonder famille, trouver travail.
Bah oui, voilà. J'ai un peu le même parcours si tu veux, donc je comprends très bien.
Ouais. Et donc, je me suis retrouvé avec moi et mes crayons et mon ordinateur sans boulot, en fait. Et du coup, ce qui m'a été assez profitable, puisque j'ai pu pas mal expérimenter différents trucs, enfin, et faire des choses beaucoup plus personnelles. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait des clips, où j'ai commencé à expérimenter d'autres choses. J'ai essayé de monter des projets de court-métrage. Il y en a un qui a capoté, mais qui m'a été profitable pour plein de raisons. Et depuis 2 ans, j'ai travaillé sur mon premier court-métrage professionnel, qui a été fini il n'y a même pas 2 mois.
Et donc voilà. Ce court-métrage
qu'on va découvrir dans pas longtemps, normalement.
Alors. Non, il est passé à Anima, c'est
alors,
ça?
Alors, il est passé à Anima là, fin février.
Donc pour ceux qui ne savent pas, Anima, c'est le festival d'animation de Bruxelles. Ouais. Un super festival quand même, parce que ça permet de voir des films du monde entier. Et c'est ça qui est chouette. Plein de courts-métrages. Alors il y a des nuits du court-métrage, et ça c'est vraiment fabuleux. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je conseille vraiment d'aller faire ce genre de choses. On en prend plein les mirettes. Il y a du bon, du très très bon, et puis du moins bon. Mais en tout cas, il y a toujours de l'inventivité là-dedans, quoi.
Pour la nuit animée? Oui. Pour le festival en général, ouais.
Oui, et même dans les courts-métrages, etc. Dans le festival en général, il y a des films qu'on ne verra nulle part autre part, quoi.
C'est ça. Ouais. Pour ceux qui peuvent pas se taper les 10 jours du festival d'anima, parce que oui, il dure 10 jours. Je crois que c'est l'un des plus longs festivals d'animation. J'allais pas dire au monde, mais enfin bref.
En tout cas, c'est un chouette festival.
Il y a la nuit animée, hein, pour ceux qui sont courageux de se taper 6-7 heures de films d'animation.
Ça tient du marathon.
Hein. Ah oui, c'est un peu un marathon. Bah, de toute façon, même 10 jours d'animation, c'est un peu un marathon. Donc, pour ceux qui veulent voir plein de courts-métrages, je conseille plutôt d'arriver avec le catalogue et de noter. Hein, parce que ce qu'on a vu, parce qu'on a tendance à en bouffer beaucoup et à oublier ce qu'on a vu avant. Enfin, c'est une boulimie et c'est jusqu'à l'overdose, donc il y a un moment où il faut quand même noter pour se dire « Ah oui, c'est vrai, celui-là était pas mal, faut que je me rappelle. »
Et donc toi, tu étais en compétition cette année, c'est ça?
Et alors le film que j'ai terminé, qui s'appelle Yin, oui, il a été terminé il y a pas longtemps, et donc il a été en compétition nationale au Festival Anima.
Ouais. Ben chouette.
Oh, félicitations d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même pas facile d'aller jusque là, hein. C'est quand même déjà pas mal, hein.
Ouais, je trouve que... Non, mais surtout que c'est un festival que j'affectionne particulièrement, parce que quand j'étais étudiant à la Cambre, j'étais bénévole pour le festival Anima, où je déchirais les tickets, je laissais rentrer les gens dans la salle.
Et tu en profitais pour voir les séances?
Et oui.
Quand même, hein.
C'était le but. C'était le but premier. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à faire des films, pour le coup c'était des films d'étudiants, mais là j'avais plus à être bénévole vu que j'avais des accréditations. Et donc oui, au fur et à mesure des années, bah, c'est devenu un peu le festival maison. Et d'autant plus qu'à chaque fois que j'avais des films qui étaient projetés là-bas, donc que ce soit des clips ou des films d'étudiants, eh bien les gens du festival Folioscope a commencé à bien apprécier mon travail, au point de l'année passée de me demander de faire l'affiche pour l'édition 2017 du festival.
Ouais, donc tu as fait le, on va dire le trailer, comment ça s'appelle, la bande-annonce du festival.
Oui, bah c'était l'identité visuelle globale, ouais, en fait. Donc ouais, il y avait l'affiche d'abord, et puis ensuite a découlé le trailer, et, enfin le trailer, la sorte de bande-annonce qui serait diffusée dans les télés et dans les cinémas.
Et qui est super chouette d'ailleurs.
Merci.
Voilà, non mais franchement, on reconnaît ton travail et l'évolution, on la voit directement dedans, mais elle est vraiment chouette avec un... Donc t'as fait ça tout seul, hein, c'est ça?
Oui,
ouais, tout seul.
Tout seul, et j'avais carte blanche, ce qui était plutôt chouette.
Ce qui est sympa, avec un musicien?
Oui, le musicien il s'appelle Thomas Giry, et avec qui je travaille de temps en temps sur différents projets, et que... Je serais amené à rappeler encore et encore parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Ouais, moi je la trouve très bien. Et surtout, elle est en parfaite adéquation avec ce que tu as fait. Vous avez vraiment travaillé en commun ou alors il t'a fourni une musique sur laquelle tu as travaillé?
J'ai fait l'animation et ensuite je lui ai demandé de composer sur l'image.
Il avait un support visuel déjà pour pouvoir composer.
C'est
ça. T'es parti d'abord de quelque chose de fixe pour faire l'animation par après? Ou t'as directement bossé sur l'animation et t'as pris quelques frames et tu dis je vais travailler à partir de ça?
Non, alors c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, la fiche en elle-même, elle fonctionne en image fixe, comme une illustration. Mmh. Mais dès qu'on commence à lui appliquer une rotation, l'animation se déclenche. Parce qu'en fait, dans cette image fixe, toute l'animation est déjà présente dedans. Et c'est c'est un principe vieux des premières expérimentations d'animation qui s'appelle le phénakistiscope.
Oui, je me souviens de ça dans les cours d'histoire du cinéma où c'est les trucs qui tournaient, c'est ça.
Et je me souviens des praxinoscopes, mais c'était plus au niveau film qu'au niveau d'animation, à mon avis.
Il y a pas mal d'objets d'animation qu'on peut voir d'ailleurs à la cinémathèque. Il y a pas mal de curiosités dans ce genre-là. Entre les zootropes, les praxinoscopes, les tomatropes et autres trucs.
Les zootropes.
Et donc là, c'est un phénakistiscope d'ailleurs qui a été inventé par Joseph Plateau, c'est un Belge, et qui a inventé ce procédé en 1880, quelque chose comme ça. Et donc ouais, c'est un vieux procédé d'animation où en fait tout, c'est un disque. Et quand on lui fait une rotation, si on le regarde devant un miroir, eh bien,
on voit l'animation.
On voit l'animation, ouais.
Et donc si on prend l'affiche, qu'on la fait tourner devant une ouverture de miroir, je crois que c'est une ouverture quand même. Tu vois pas l'entièreté du truc, si, je sais plus.
Souvent, ce qui se passe, c'est que sur ce disque, il y a des petites fentes de manière régulière tout autour du disque. Si on place le disque devant un miroir et qu'on regarde à travers la fente et qu'on fait tourner le truc... On voit l'animation.
On voit l'animation, ouais.
Donc c'est un procédé assez rudimentaire.
Et donc là, si on a l'affiche d'Anima et qu'on la fait tourner, on a ton animation.
Ouais.
Super.
Voilà un petit tips pour les gens qui vont se procurer l'affiche.
Concrètement, tu travailles, quand tu fais de l'animation, tu travailles, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire dessin les uns derrière les autres. Tu travailles par ordinateur. Comment tu...
Je travaille essentiellement par ordinateur.
Et tu fais des interprétations ou alors tu dessines chaque étape de l'animation?
Ça va être un peu compliqué d'expliquer tout ça.
Non, mais on est curieux. Là, on est curieux
mais c'est aussi parce une petite déformation professionnelle. Parce que, voilà
on a tous les deux essayé de faire l'animation, on en a fait plus ou moins. Et c'est vrai que là, vu ce que tu arrives à produire, on est quand même curieux de la manière dont tu l'as produit, quoi. Après, c'est peut-être un secret de fabrication.
C'est pas un secret, mais enfin, j'ai mis du temps à trouver un système qui est facile à réaliser, selon moi, mais je sais pas si j'arriverai à l'expliquer comme ça.
Il faut pas donner tes recettes, tes formules magiques non plus.
Mais c'est de l'interprétation ou c'est vraiment du dessin? L'interprétation, je veux dire, c'est que tu as deux images clés et après, on va dire comme dans Flash, tu déformes, tu prends et puis tu laisses l'ordinateur...
L'interpolation à ce moment-là.
Tout est dessiné à la main.
Tout est dessiné, oui.
Ouais, enfin, via un logiciel. Ouais, mais pour l'histoire, en fait, j'avais un projet d'animation qui est parti dans le placard là, et que j'espère ressortir un moment ou un autre. Mais c'était une histoire avec deux fœtus qui se baladent et qui parlaient un petit peu du sens de la vie et tout ça. Et à un moment, ils rencontraient différentes divinités. Et chaque divinité avait derrière elle une sorte d'auréole, un peu comme ces assiettes qu'on voit derrière certaines icônes, une sorte de grosses assiettes avec plein d'enluminures dorées et tout ça. Mmh. Et donc, parmi toutes ces divinités, il y avait la divinité de la mort, la divinité de la vie, la divinité du soleil, enfin de la lumière, enfin bref. Et pour chacun, j'avais essayé de faire une assiette personnalisée pour chacun de ces dieux. Et je voulais les animer. Quitte à faire de l'animation, autant en faire plein.
Autant la faire.
Et j'étais parti sur une idée d'enluminure animée, quelque chose d'assez basique. Et faire des genres de mandala, quoi. Enfin, avec, comme un kaléidoscope qui serait en perpétuel mouvement avec une boucle. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai commencé à faire des phénakistiscopes. Avec ce procédé d'animation vieux de plus d'un siècle.
Ton travail allait être quand même assez fort inspiré par des rapports avec les divinités, des rapports entre des dieux et des créations. Et c'est un thème qui te tient particulièrement à cœur, ou c'est juste ça devient comme ça, ou...
Il y a deux vagues réponses, parce que je ne vais pas être hyper précis. C'est que je ne me suis jamais... premièrement, je ne suis jamais vraiment mis à l'exercice de raconter des histoires placées dans un environnement contemporain, parce que ça, je sais pas, j'y arrive pas en fait. Je sais pas, faire des gens habillés comme aujourd'hui, enfin je sais pas, j'ai un blocage à ce niveau-là. Donc du coup, quand je fais des films narratifs, je pars dans quelque chose de fantastique ou de mythologique. Et ouais. Donc du coup, deuxièmement, c'est plutôt les contes mythologiques qui m'intéressent plus que la religion. Et donc tout ce qui est Dieu et tout ça, enfin ça, c'est des choses qui me plaisent, parce que ce sont des contes avant tout, et je les prends comme tels. Je suis pas quelqu'un de pratiquant, hein.
Mais c'est sûr que c'est des histoires qui peuvent être vraiment ça a habité l'humanité depuis le début, on va dire. Et c'est vrai que c'est génial, quoi. C'est la même chose que pour la SF ou quoi que ce soit. C'est imaginer des choses et on y va, et on peut modeler de la manière dont on veut son imagination. D'ailleurs, c'est l'occasion de parler du court-métrage pour lequel tu étais en compétition à Anima, qui s'appelle Yin, dont tu as parlé un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus? Parce que tu l'as présenté en deux secondes, mais effectivement, c'est l'histoire, a priori, d'un dieu qui s'ennuie, c'est ça? Et qui crée un monde avec deux personnages, et puis voilà, il s'amuse avec, c'est ça?
C'est ça. Mais il y a le commencement du film, c'est ça. C'est la présentation d'un dieu qui est tout seul, et qui s'emmerde ferme parce que lui, il est tout seul et il est frustré parce que tous les autres dieux qui sont autour de lui sont en couple. Et donc lui, il bougonne un petit peu. Et pour tuer son ennui, il se fabrique un petit jouet, il va se fabriquer un monde sur lequel il va déposer Yin et Yang, qui seront deux personnages qui...
Pour te couper deux secondes, mais pourquoi Yin? Et puis Yang, et pourquoi pas Ying et Yang? Non, je pose la question parce que ça fait penser directement à Ying et Yang, on est d'accord?
Ah oui, c'est Yin, c'est, en fait, c'est l'anthropomorphisation de Yin et Yang, de ces entités.
C'est Yin.
C'est Yin, normalement. C'est Yin. J'ai toujours cru que c'était Ying. Ying.
Ying.
Bon, alors c'est bon.
Ta réponse.
le fait d'avoir un couple amoureux, c'était un peu une sorte de transposition d'Adam et Ève. Mmh. En fait, là, le film que j'ai fait, j'ai pris pas mal de différentes mythologies, j'ai pris un shaker, j'ai tout mélangé dedans et j'essaie de rebalancer à ma sauce. Donc oui, il y a pas mal de choses qu'on peut retrouver du christianisme, du taoïsme. Mais en surface quand même, parce que j'ai pas fait une thèse sur les religions, évidemment. Oui. J'ai fait un conte sur la création du monde. En fait. Et Et sur le couple amoureux, parce que c'est aussi une allégorie du couple, ce film-là, parce que les deux personnages, Yin et Yang, sont deux entités qui tout opposent, mais qui s'attirent aussi. Et ce sont des complémentaires opposés, en quelque sorte. Hein. Il y en a un qui est tout blanc et l'autre tout noir. En principe, ça ne doit pas matcher, mais sauf que dans l'un, il y a une part de l'autre, et dans l'autre, il y a une part de l'un, et puis c'est comme ça qu'il tombe amoureux. Sauf qu'il se retrouve dans un monde qui a été créé par ce dieu jaloux et frustré, et en fait, ils vont pas se retrouver tout de suite. Il y aura plein d'obstacles, et le dieu va bien rire de leur infortune. Voilà.
D'accord.
C'est dans les grandes lignes.
Et au niveau de l'écriture, t'écris tout seul ou il y a quelqu'un qui t'aide? Est-ce que tu fais ça Je suppose que tu fais lire un minimum.
Le film, il a été produit par Zorobabel, mm-hmm. qui est un atelier de production à Bruxelles. Et
Zorobabel, dont on avait reçu, je ne sais plus.
Oui, l'année passée, William. N, ouais. Voilà. qui était venu.
Donc vous pouvez réécouter l'épisode de mars 2016, on va dire ça
par là.
Ça, ouais. Par là. Et dans lequel, effectivement, tu étais venu toi avec William et puis.
Yann Bonin. Oui, qui est un compatriote animateur.
Voilà. Et c'était une très chouette émission où vous aviez parlé d'anima et de plein d'autres choses, ouais. Et notamment de l'école des gobelins, etc. C'était vraiment une très chouette émission. Voilà. Je vous conseille vraiment de l'écouter si vous ne l'avez pas fait déjà.
À ce moment-là, j'étais en pleine production de mon film. Ouais. Voilà. Oui, mais où justement, William et l'autre et le reste de l'équipe de Zorobabel, Delphine, il y en a deux, m'ont suivi et m'ont aidé dans l'écriture et tout ça.
Oui, ouais, parce que c'est vrai que tout seul, on peut vite. C'est compliqué de produire un truc pareil tout seul.
Oui.
T'as mis combien de temps?
C'est pas infaisable, hein, mais il y a un moment où on aime bien mettre un petit peu de beurre dans les épinards, quoi. Ça m'a mis 2 ans.
Deux ans environ. À travailler non-stop ou alors en faisant des pauses pour
bouffer, la première année, c'était une première année de pré-production, pardon. Donc du coup, c'était de l'écriture, c'était de la recherche graphique, c'était des tests d'animation et tout ça, où là, effectivement, je devais répondre à d'autres commandes pour gagner de l'argent.
Oui, oui,
c'est normal. On fait comme on peut. Hein, donc toute cette période-là, c'était un peu en dents de scie où je travaillais sur mon projet, j'avais d'autres projets à côté. Et donc tout ce travail-là avait mis un an en attendant des financements. Et en fait, les financements sont arrivés tout de suite, une fois que j'avais déposé le dossier.
Tu as déposé le dossier quoi là?
Alors j'ai déposé un dossier à la commission Wallonie-Bruxelles pour l'aide au cinéma, mmh. et l'audiovisuel.
Et il y a... Tu peux en vivre dans ces cas-là quand...
Eh bien, une fois que j'ai eu les financements, ouais, j'ai vécu là-dessus pendant un an. Un peu moins, mais...
Ouais, donc ça va. Ça permet quand même à un artiste de vivre pendant le temps de la création, quoi. C'est pas mal. Ça mérite d'être souligné, mine de rien.
Ah oui, c'est plutôt pas mal.
C'est pas un parcours évident d'arriver à se trouver un...
C'est d'autant moins évident que ce financement-là, il est bien si on veut travailler tout seul, et c'était mon cas. Ouais. Mais j'ai quand même demandé de l'aide à droite à gauche parce qu'il y a un moment où on ne peut plus travailler seul et il y a quand même des délais à respecter, entre guillemets, hein, parce qu'on les a quand même dépassés.
Pas forcément.
Mais les financements n'étaient pas suffisants pour payer plus de personnes et ça, je trouve ça bien dommage. Mais ça a permis de me payer moi, ça a permis de payer le musicien, l'ingé son et le mixeur. Qui d'ailleurs, toute la partie sonore a été coproduite par Caméra Extera, qui se trouve à Liège. Voilà, qui est un autre atelier de production en Belgique.
Bah, chouette.
Ouais.
Et donc, ce que tu veux dire, c'est que finalement, c'est une enveloppe, peu importe le type de projet. Dans ton cas, ça fonctionnait, ça te permettait de vivre. Mais dans un cas, on va dire, avec une équipe plus grosse, ça pose plein d'autres soucis.
Moi, j'ai pris la décision de travailler seul parce que... C'était mon projet, je n'avais pas forcément envie de déléguer. Mais sinon, j'aurais très bien pu dire, au lieu de faire mon film en 9-10 mois, je vais le faire en 4 mois, mais avec une plus grosse équipe. Et
voilà, c'est toi qui décides à ce moment-là vraiment de...
Oui, on est en discussion avec les producteurs. Ouais.
Ah, ok, d'accord. Non, mais c'est vraiment... C'est, je vais pas dire que c'est idyllique, mais enfin c'est vraiment agréable d'avoir comme ça cette liberté de pouvoir choisir un peu comment toi tu veux gérer ton projet.
Ouais, surtout que Zorobabel, ils sont pas chiants et ça je leur tire mon chapeau parce qu'ils m'ont laissé faire pas mal de choses que je voulais. Enfin, j'étais assez libre et ils m'ont fait confiance et c'était plutôt bienvenu. Enfin, je les remercie encore. Hein.
Et ton court-métrage va continuer à vivre, je suppose, dans des festivals ou
J'espère, ouais.
Ouais, ouais.
Là, il a été... il était montré pour la première fois à Anima, puisqu'il avait été terminé un mois avant. Donc c'était un peu short, on avait peur de perdre.
Heureusement qu'il te connaissait et qu'il savait la qualité de ton travail pour le prendre.
Oui, ça c'était plutôt bien. Oui, surtout que c'était un beau doublé, vu que j'ai fait l'affiche pour Anima.
Mais pour ceux qui auraient éventuellement raté Anima, tu sais déjà moins... Bah oui, personne n'est parfait. Tu sais éventuellement déjà où on aurait l'occasion de pouvoir revoir ton court-métrage?
Je ne sais pas. Non, franchement, je sais qu'il est envoyé dans divers festivals, mais là, je ne sais pas... vraiment, je ne sais pas s'il va être pris ou... je sais qu'on l'a envoyé au festival du court-métrage de Bruxelles, le BSFF. Encore faut-il qu'il le sélectionne. Hein. Si vous m'entendez, sélectionnez-le.
On peut retrouver déjà, parce qu'on a regardé juste avant d'enregistrer l'interview, on a encore regardé quelques-uns de tes travaux et on peut retrouver une bonne partie déjà de ce que tu as fait sur Vimeo, je pense qu'on a regardé principalement Vimeo, mais je sais pas si tu es encore sur d'autres plateformes où on peut voir des choses.
J'ai pas de site internet, mais on peut voir mes travaux animés sur Vimeo. Sinon, j'ai un Tumblr aussi où
il y a
quelques gifs qui traînent, que j'essaye d'alimenter de temps en temps.
Alors juste, ça c'est une question qu'on se pose toujours, parce qu'on a l'habitude de tout trouver sur Internet. Pour quelle raison il n'est pas disponible sur Internet?
Ça c'est la logique des festivals justement.
Ouais. Oui, je connaissais la réponse, mais c'est vrai que...
Le fait c'est que le film a une vie en festival, et si les gens veulent le voir... Il faut qu'ils se déplacent.
Ouais. Pas court-circuiter non plus.
Non. C'est un peu comme une sorte de logique de chronologie des médias à petite échelle, vu que c'est un court-métrage. Hein.
Mais c'est vrai que ça peut paraître frustrant des fois, parce qu'il y a une actualité sur tel ou tel film, court-métrage et autres, qui n'est pas forcément visible autre part. Et puis, au final, quand il finit par apparaître quelque part sur le web, sans doute sur le site de Zorobabel, je suppose qu'à un moment, il va finir par s'y retrouver.
Oui, mais ça arrivera peut-être après 2 ans.
Oui, c'est ça, c'est à peu près 2 ans, et donc finalement, on a oublié. C'est dommage. C'est après la vie du court-métrage, quelque part, après l'actualité autour. Il y a des gens qui tomberont dessus par hasard, mais c'est vrai que des fois, c'est très frustrant.
Mais surtout que le festival d'animation, enfin, en tout cas pour le court-métrage, ça reste quand même un média de niche en quelque sorte. Si on veut vraiment aller voir des courts métrages, faut se déplacer, ou bien on tombe par hasard dessus, soit sur le web, soit sur des chaînes de télé quand il y a des achats télé, parce que ça existe aussi.
Mais c'est vrai que quand on voit la puissance du web et de partage qui peut exister et faire vivre certaines œuvres à ce niveau-là, c'est vrai que des fois, ça peut être frustrant même en tant que créateur de se dire « je ne peux pas le partager
». Pas encore.
Pas encore, en tout cas. En même temps, vu ce qu'on a vu, c'est un peu intemporel. Dans 2 ans, il fonctionnera très bien. Il n'y a pas de souci.
Oui, non, mais ça c'est clair.
Parce que tu pourrais avoir des choses beaucoup plus teintées d'une époque et qui peuvent ne plus jouer après. Là, dans 100 ans, regarderont.
Non, mais d'autant plus intemporel que j'ai une esthétique qui fait un peu penser au psychédélisme des années 70, 60. Ouais. Donc, je crois que c'est déjà daté. Donc...
ça me fait penser un peu à Topor, un petit peu. Et au travail, comment il s'appelle, La Planète Sauvage, etc.
C'est marrant, parce que les indications pour le musicien, là, Émile Sornin, qui a fait la musique de mon film Yen, qui a un groupe qui s'appelle Forever Pavot, et lui, les indications que je lui avais données, c'était justement d'aller piocher dans la musique de La Planète Sauvage. Et lui, il est féru aussi de musique de films des années 70, entre Ennio Morricone et un autre qui m'échappe. Dans ce goût-là, quoi. Ouais.
Et c'est vrai que ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi, alors peut-être pas dans ton court-métrage, mais dans d'autres choses que t'as produit. Il y a quelque chose de l'écriture automatique. En tant que spectateur, c'est normal, on ne sait pas ce qui va arriver, mais j'ai l'impression que toi aussi, notamment le clip que tu avais fait pour.
Brains, ouais.
Alors je ne sais plus, oui, si c'est Brains
Oui.
ou c'est vraiment de l'écriture. Bah, ça se transforme tout le temps et on ne sait pas ce qui arrive. Et je suppose que. À voir ce qui arrive, pareil, tu dois travailler plus ou moins en écriture automatique ou quelque chose comme ça.
Ça pour le coup, ouais, là pour le clip que j'ai fait pour Rains, ouais, il a été fait vraiment dans cette logique-là, même s'il était un peu pas cadenassé, parce qu'il n'était pas cadenassé, il était
Bah, t'avais la musique et tu devais
oui,
suivre.
oui. Mais par rapport à mon canevas de base, il était grosso modo plaqué, et ensuite, oui, j'ai animé dessus un peu en freestyle. Enfin, voilà.
J'aime beaucoup
Mais.
aussi l'utilisation des couleurs que tu fais. Alors bon, le noir et blanc est sympa, mais j'aime beaucoup. Il y a un côté mexicain, j'ai presque l'impression.
Oui, non, mais c'est vrai, c'est
Ouais.
vrai, c'est vrai,
Il y
c'est
a un
vrai.
côté mexicain, je ne sais pas. C'est
C'est d'autant plus fort que t'opposes des séquences en noir et blanc à des séquences très colorées. Vraiment juste qui suivent et qui tu repasses sur le noir et blanc, puis tu repasses sur des choses très colorées. Alors, assez souvent, en fait, même, c'est pas vraiment juste pour un ou deux trucs. J'ai l'impression que ça renforce, enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça renforce d'autant plus l'effet vraiment super coloré de certaines parties. Mais c'est vrai qu'en fait, ça me fait. Peut-être dans le fond de mon cerveau, quelque part, il y avait le mot mexicain qui s'est allumé.
Ouais, mais ça doit être rigolo.
Bah,
C'est
c'est
les
même
faits jour des
les.
morts et tout ça. Ouais.
Oui,
La
bah,
fête des
y a le
morts.
crâne, notamment dans l'animation d'Anima au début, où là, c'est vraiment. Il y a un rapport avec. Oui, l'imagerie mexicaine du crâne, etc.
Bah oui,
Je suppose.
on peut y voir pas
Hein.
mal de choses. On peut y voir aussi des petites divinités japonaises, les kami, ce genre de
Oui,
choses.
y a des
Il y
trucs comme ça, ouais.
a ça, ouais.
Et là, c'est marrant, mais par rapport aux références, est-ce que c'est dans. -ce que non, j'ai un doute. Est-ce que c'est dans Yin que j'ai vu, dans l'extrait que j'ai vu? Il y a pas mal de plans presque à la Escher, comme ça, tu vois, où tu joues sur les perspectives et les fausses perspectives. Et ça m'a fait penser très très fort à un jeu, en fait.
Alors oui, ça c'était un des trucs
C'est
dont je voulais parler.
Monument
Monument Valley.
Valley. Je me trompe? Ou il y a du
Ah
Monument
non, tu ne
Valley
te
dans.
trompes pas, non.
Voilà.
Mais même, d'ailleurs c'est le même genre de couleur, entre guillemets, qui n'est pas vraiment pastel, mais qui joue sur ces différents rapports de couleurs. C'est pas des couleurs vives et en même temps, c'est pas. Je sais pas comment les définir, moi,
Ouais,
c'est.
mais c'est des jeux de contraste. Hein. Après, ce genre de recherche de couleurs, ouais, j'essaie de faire des choses qui ont un peu plus d'impact.
Mais justement, au niveau jeu vidéo, moi, ça me fait penser, bon, il y a ça, mais le clip dont on parlait tout à l'heure, il y a du côté un peu limbo. T'as jamais été approché par un studio pour faire le graphisme d'un jeu vidéo ou autre?
Non,
Parce que
non.
là, franchement,
Encore un petit appel du pied ici.
voilà, non, mais
Voilà.
quand on voit ton travail graphique, on se dit. Il y a de quoi faire un jeu vidéo, quoi. Là, ça serait génial d'être dans cette atmosphère. Il y a quelque chose, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, ça te plairait de.
C'est pas exclu, hein, mais je sais pas trop quoi répondre à ça, mais enfin, en tout cas, ouais, pourquoi pas.
Non, je veux pas.
Je sais pas ce que tu en penses, Luc.
Bah oui, moi c'est l'âme de gamer qui a parlé quand j'ai vu certaines séquences. C'est pour ça que ça m'a directement mis la puce à l'oreille en me
Ouais.
demandant si toi-même éventuellement t'avais
Ben en fait,
déjà joué à ce genre de jeu-là ou que.
à la base, je voulais faire effectivement des pièges visuels qui rappellent les illusions d'optique des chairs et tout ça. Et dans mes recherches, ben, j'avais trouvé effectivement Monument Valley. Et j'ai fait, waouh, ouais, ça doit être génial, j'aimerais tellement y jouer. Mais
Tu y as joué ou
vu que
pas?
j'ai pas de smartphone, ben, non, j'y ai jamais joué.
Bah oui, mais.
Mais
La
malgré tout,
tristesse
c'est.
du low-tech.
Et tu me diras en même temps, eux, ils sont inspirés des chairs, c'est évident, quoi.
Oui, clairement, ça
Voilà,
c'est sûr et certain.
les inspirations sont là.
Ouais.
Chouette. Donc, tu as été à Anima 2017. Et
J'étais tout le temps.
tu peux nous faire une petite.
Tu as une minute pour nous résumer.
Non, mais une petite sélection, ou en tout cas deux, trois coups de cœur que tu as vus. Alors, je sais que là, tu n'as aucune feuille, tu n'as rien, donc ce n'est pas forcément
Non,
évident.
en fait, j'ai pas vu énormément de longs métrages. Enfin,
Et t'as eu des coups de cœur, en tout cas.
J'ai eu des coups de cœur, oui.
Voilà.
Non, en fait.
Non.
C'est un peu compliqué, mais ouais. Enfin, en tout cas, dans les courts-métrages, pas spécialement, parce que je crois que j'ai pas vu autant de séances que les fois précédentes. Mais j'ai eu effectivement un coup de cœur pour un film qui s'appelle Decorado, qui a d'ailleurs remporté un prix dans la catégorie des sélections internationales. Mm-hmm. Un film qui s'appelle Decorado, un film d'origine espagnole, il me semble, je me rappelle plus du réalisateur, où ça met en scène différents personnages, où le décor est placé comme si la vie était... Enfin, la vie était une scène de théâtre, sauf que le casting n'était pas bon. Et tous les personnages sont à moitié foireux. D'ailleurs, il y en a un... La femme du personnage principal est d'autant plus foireuse que sa voix est justement une voix robotique des voix synthétiques.
Alors, merci. Effectivement, il fait référence à Stupéflip, donc un sujet dont je vais parler au prochain.
Un petit teasing.
Pendant le podcast. Donc, le numéro 45, je crois. Le numéro 45. Et effectivement, Stupéflip utilise la voix de synthétique de Google. Et donc, voilà.
Voilà, et dans ce film, l'utilisation est parfaite parce que du coup, le personnage sonne faux et a raison. Sa voix n'est que synthèse. Donc. Et tout le film est comme ça, on va conseiller. Je pense qu'il est même disponible dans son entièreté sur le web, parce que je pense que ça fait un petit moment qu'il tourne en festival. Et voilà, pour les courts-métrages, il y a mon film, hein, évidemment, à voir bientôt en festival dans
le monde entier.
Dans le monde entier, oui.
Bah,
je croise les doigts, je touche du bois.
Voilà.
Voilà.
Je le souhaite, et d'être acheté par les télés.
Ouais, aussi. Bien, ouais, ouais.
Très bien.
Mais bon, ça vient au festival, ne fait que commencer. Ça a commencé la semaine passée avec Anima, donc c'est encore tout frais. Ouais. Et en long métrage, j'ai pas vu beaucoup de nouveaux films. Il y avait le film de Jean-François Leguioni qui avait fait l'ouverture, qui était pas ma tasse de thé là pour le coup. Hein. Ça m'a.
Le nom, c'est quoi?
C'était Louise en hiver.
Louise en hiver.
Ouais, avec une vieille dame qui se retrouve coincé dans une station de balnéaire au bord de la plage.
Mmh. Oui, balnéaire, plage.
Okay. Pas,
oui.
Et qui en fait, cette ville vit pleinement pendant l'été, mais pendant tout le reste de l'année, elle est complètement abandonnée, sauf par cette vieille dame. Qui...
Ah, donc ça se passe en basse saison, voilà. Où il n'y a rien du tout.
Sauf elle, qui s'emmerde. Il y en a qui on peut trouver ça très touchant. Hein. Mmh. Sauf que là, depuis son dernier long métrage, qui s'appelle Le Tableau, de Jean-François Leguioni, il utilise une technique où tous les décors sont en 2D, c'est de la peinture, avec des personnages incrustés en 3D par-dessus, et je trouve que le mariage, il fonctionne pas terrible, et en fait... Mais ça, c'est plutôt le technicien qui parle, hein, plutôt que le ressenti du spectateur,
vas-y.
Hein, mais parce que je vois la technique, et du coup, ça ne m'aide pas à rentrer dans le film. Donc, ce que je dis n'engage que moi. Hein. Voilà. Et sinon, pour d'autres longs métrages, j'en ai vu un, mais qui n'est pas tout récent, et qui s'appelle Belladonna, et qui est un film japonais des années 70, et qui est un film psychédélico-érotique.
Ah ouais. Film des années 70,
Années 70 et psychédélique et érotique, ça marche bien. Hein.
Donc moi, ça me parle. et ce qui est marrant, c'est... Enfin, marrant, je sais pas, mais en tout cas, il a des allures de peinture d'art nouveau, donc une esthétique très, très européenne. Et le film est un peu bizarre dans son message, parce qu'il y a dans le couple la femme qui s'appelle Jeanne, et son homme s'appelle Jean, tout simplement. Jeanne se fait abuser par les dirigeants du village, et c'est très dur, elle se fait violer tout le temps. Enfin, c'est assez cauchemardesque, ouais. Donc c'est pas du psychédélisme à la Yellow Submarine, hein, c'est du psychédélisme un peu malsain. Pas un bad trip pendant une grande partie du film, mais sauf que je ne sais pas encore si le film est vraiment cauchemardesque ou si à un moment ça tourne en euphorie sexuelle. Et je ne sais pas encore si le film, il est s'il diabolise la femme et le sexe, ou si au contraire c'est cool. En tout cas, j'ai pris.
Le message n'est pas clair.
Non, quoi. Non, mais c'était assez zarbi. Hein. Enfin, faut l'avouer, je crois que j'ai pas eu toutes les clés pour comprendre le film. Mais le film est assez spécial, hein, parce qu'il est au. Il y a un bon tiers du film qui n'est pas du tout animé. Donc, c'est juste des images fixes ou des mouvements de caméra. Et quand c'est animé, par contre, c'est assez virtuose. Et moi, j'ai eu une bonne claque avec ça, quoi. Voilà. Ça, c'était un peu le coup de cœur d'Anima et. Pour un vieux film en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, le festival Anima propose non seulement des films comme Lego Batman The Movie comme Vaiana. Enfin voilà, ça, c'est des films qu'on peut voir partout en salle. Mais il propose aussi des raretés comme ce film-là qui a été restauré il n'y a pas longtemps. Et donc, ça, c'est le genre de choses qu'il faut aller voir en salle. Et donc, c'était vraiment intéressant d'aller voir ça en salle à Anima. Et ce qui est important de voir aussi à Anima, c'est tout ce qui est conférences, making-of, où là, on voit des réalisateurs et des auteurs qui viennent parler de leur travail et qui sont des moments uniques dans le festival et qui ne sont pas visibles autre part, quoi.
Je me souviens de... Mais c'était il y a très longtemps, hein. Je pense que c'était il y a presque 20 ans, c'est possible, Anima. Ça a commencé quand, Anima ? Il y avait déjà un paquet, quand même, hein, un paquet de temps, là. Mais c'était à l'époque où Forrest Gump était sorti.
Donc 97,
un truc dans le site, on va pas être loin. Et il y avait une assistante qui était venue pour parler du film. Et moi, qui étais tout foufou au niveau des effets spéciaux à l'époque, toujours maintenant, mais enfin, à ce moment-là, j'étais encore tout frais, je ne savais pas encore comment ça se passait vraiment. Et on a passé, je crois, 40 minutes à regarder le plan du début, je pense que c'est avec la plume qui se balade et qui se pose exactement sur la chaussure de Forrest Gump. Elle a parlé de ce plan pendant 40 minutes.
Ah ouais,
cool. Oui, parce que c'était tout un truc pour arriver à faire ça. Et moi, j'étais complètement déçu et désenchanté quand je l'ai senti là. Mais bon, d'un autre côté, c'est aussi une des occasions de se rendre compte de la réalité de certains métiers ou de comment ça se passe, de parler avec des gens qui ont les pieds dedans, qui savent de quoi ils parlent. Et on ne fait pas que voir des choses qui sont des produits finis. On parle aussi avec des gens, on découvre des personnalités. C'est vrai que ça fait un moment que je suis plus retourné à Anima. Mais j'en ai toujours gardé une bonne expérience, ne fût-ce qu'au niveau de l'ambiance aussi. L'ambiance est très sympathique. C'était encore à l'époque, je pense que c'était encore passage 44.
Oui.
Si je me souviens bien.
C'est juste.
Ouais. Ça date. Ça date assez bien. Voilà.
Ok. Une autre petite découverte, un autre coup de cœur ou
Une conclusion. Si tu devais encore en choisir un qui t'a tapé dans l'œil, qu'à le dire.
J'ai rencontré un réalisateur de films d'animation, un japonais aussi, qui fait des films depuis le début des années 2000, qui s'appelle Mirai Mizue, et qui, lui, a une démarche assez spéciale. Enfin, il fait des boucles animées qui durent en général une ou deux secondes, même pas.
Donc ça te parle.
Ah, où il anime des parties seulement, ouais. C'est ça ?
Il anime des modules, et sur chaque module, en fait, il va plaquer un son.
Ah non, c'est pas ça.
Et ensuite, il agence toutes ces animations entre elles pour que ça fasse de la musique. Donc, sur une animation de Méduse, il va taper un son grave sur une... Enfin, et ensuite, quand il met toutes les animations les unes après les autres, et il les agence comme des pièces de puzzle, eh bien, ça fait de la musique. Hein. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement, mais voilà. Et il a des films où il est plutôt dans des modules organiques et d'autres où plutôt des modules géométriques. Et j'aime beaucoup son travail depuis des années. Et quand je suis allé voir sa conférence, le type est venu me voir en me disant qu'il avait bien aimé mon affiche. Donc,
ah bah c'est cool ça, dis donc. Ouais.
Et moi je lui ai dit, oh, merci monsieur, j'aime beaucoup ce que vous faites. Enfin voilà. Enfin,
c'est jamais trop quoi dire. Hein, voilà.
Non, voilà, et après.
Mais peut-être une future collaboration.
Ah, bah pourquoi pas, hein. D'ailleurs, il est en train de bûcher sur justement le fait de ne pas réussir à allier ces formes organiques et ces formes géométriques. À chaque fois, il sépare les deux dans des films différents et il n'arrive pas à trouver un moyen de combiner les deux, alors que ça me paraît évident. Et il m'a dit qu'il n'avait pas encore trouvé le lien. Donc,
peut-être lui glisser une petite idée ou deux. L'occasion.
Eh ben super. Ben merci beaucoup, Nicolas. Franchement.
Voilà. Merci pour l'invite.
Voilà, ben je pense qu'on a fait un peu le tour.
Mais très chouette moment, en tout cas. C'est chouette. Voilà. Hein. Moi, j'ai appris des choses. Ça va, mes questions du début ont eu leur réponse. Je suis satisfait. J'espère que tout le monde l'est autant que moi, mais moi, je trouvais,
Je trouvais ça très intéressant. On ne saura pas exactement comment il fait, c'est
les animations. Est-ce qu'on saura un jour
Non, mais je ferai une masterclass quand je serai vraiment très célèbre. Et que...
Anima, et comme ça, on sera obligé de venir.
Non, mais allez voir mon Tumblr où justement j'avais fait une photo d'une des affiches dans la rue. Et j'ai juste fait une rotation de la photo en question et l'animation se joue. Donc là, il y a peut-être déjà un micro-élément de réponse.
En tout cas, merci d'être venu. On mettra tous les liens sur le site de l'œil carnivore.
Bien sûr.
Et puis voilà. Et puis je propose qu'on se retrouve pour la prochaine émission dans un mois, j'en sais rien. Ben, on verra comment ça se passe. En tout cas, on va poster ça comme un petit module.
On pourrait réécouter à foison.
On va passer un petit extrait dans l'émission du 18 mars. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à aller voir le boulot de Nicolas Fong. Et si vous avez des propositions de collaboration, n'hésitez pas à le contacter. Voilà.
Je ne serai pas hyper disponible tout 2017, mais après, avec plaisir.
T'as quoi comme projet de futur, en fait?
Là, j'ai commencé à travailler sur un long métrage d'animation et.
Oh! Oh oh!
Pas le mien. Ah. Tout de suite. Non, mais je travaille en tant qu'animateur sur un long métrage, voilà.
En Belgique?
Oui.
Il y a beaucoup de studios en Belgique.
J'en connais trois gros.
Ouais, trois gros qui.
Trois gros. Deux gros et puis plein d'autres structures, ouais. Mm-hmm. Ouais, il y a N-Wave qui.
N-Wave, ouais.
Qui font des films en 3D stéréoscopie.
C'est plus 3D,
Ouais, mais ça, c'est une sorte de... Ils prétendent rivaliser avec Pixar et Disney et DreamWorks, enfin. Mais avec beaucoup moins de budget, hein. Mais avec le budget qu'ils ont, ils font meilleur, voire mieux. Enfin, c'est ce qu'ils disent.
Moi, je les connaissais surtout pour des... Ils faisaient des rides en 3D.
Puis ensuite, ils sont mis au film d'animation.
C'est eux qui avaient fait l'animation avec la tortue, la petite tortue,
ouais.
C'est ça?
Samy, ouais.
Mmh.
Mais ils ont été sur pas mal de projets ces derniers temps, je pense.
Mais en fait, chaque année, ils produisent... peut-être pas chaque année, mais en tout cas, oui, ils enchaînent les projets de long-métrage d'animation, et ça a l'air de bien marcher, hein, ils continuent. Et c'est des grosses équipes à chaque fois, donc ils trouvent les financements qu'il faut, ils font vivre plein d'animateurs.
Bah, tant mieux, parce que...
Ils sont Et c'est des productions 100% belges, donc chapeau bas, hein.
Et toi, là, le projet que tu fais, fais avec...
Et là, c'est une production française, une coproduction belge, et c'est le prochain long-métrage de Johan Sfar.
Sympa.
Ah, comment ?
Petit vampire.
Ah bah oui. Bah, chouette.
Ouais.
Bah, c'est super sympa. Bah, on te réinvitera... lors de la sortie. Indépendamment de ça...
Chaque année.
Non, mais oui, chaque année. Tant qu'à
on fait le point.
Lors de la sortie, on fera le point. Et puis, tu nous raconteras comment ça fonctionne. L'arrière, derrière les rideaux.
D'une production.
D'une production de ce type-là. Parce que, moi, je suis curieux, en tout cas. OK.
Merci à toi, en tout cas. Allez. Merci à toi d'être parmi nous. Et on se retrouve, nous... pour la suite de l'émission.
Oui, ou de la suite de l'émission.
Ou pas, ou toute seule. On se retrouvera de toute façon.
Voilà, exactement. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.